Écho d'économie.
La révision de certaines dispositions du code minier de la RTC, en tout cas nous en parlons ce soir dans Écho d'économie, tout en encourageant la révision du code minier, l'ONG Énergie demande aux parties engagées dans les discussions au sujet du régime fiscal de dialoguer et de trouver la juste mesure pour que le secteur minier congolais demeure attrayant. Nous rentrons ensuite dans le Haut-Katanga et le Lualaba à Lubumbashi pour parler du mécontentement des agents Gécamines qui réclament 10 mois de salaire. Et à Kolwezi, nous parlons de la journée clientèle minière organisée par la SNCC la semaine dernière. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal économique sur Radio Okapi. L'ONG Natural Resource Governance Institute a publié hier à Kinshasa une étude comparée intitulée « Sortir de l'impasse fiscale, comment sauver la réforme du code minier en République démocratique du Congo ». Dans cette étude, l'ONG demande au gouvernement, les entreprises minières et la société civile engagées dans la réforme de bien dialoguer en vue de trouver le juste milieu en ce qui concerne le régime fiscal proposé dans le projet de révision. Le régime fiscal dans le projet de révision est de 67%, alors que dans la loi de 2002, l'État prélevait 58%. Jean-Pierre Okenda est le coordonnateur pays de Énergie RDC. Il parle de la grande recommandation de cette étude dans cette interview qu'il nous a accordée.
Nous avons une recommandation principale que nous faisons en toutes les parties, mais avec plus de responsabilité au gouvernement. Là, on a le Premier ministre, donc Sami Badibanga, qui vient d'être nommé et qui a les objectifs, notamment d'organiser les élections. Et donc, nous pensons qu'il faut renouer les dialogues. Il faut que les gouvernements puissent renouer les dialogues avec les parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile, pour trouver un consensus. Il n'y avait pas d'études assez comparées comme ce qu'on vient de produire maintenant. Donc, il y a une opportunité maintenant que les parties prenantes puissent se regarder et prennent réellement des positions qui soient bien informées. Techniquement d'abord, parce que la réforme, je sais qu'il y a des dimensions politiques, décisions politiques, mais techniquement, il faut qu'on comprenne très bien la portée du changement apporté au niveau du régime fiscal. Et donc, le changement apporté ou des améliorations à faire doit reposer sur des arguments qui sont techniques. Et là, nous sommes en train de voir avec vous qu'il n'y a pas le régime fiscal qui est le facteur déterminant. C'est le facteur clé. Mais il y a d'autres aspects. Il y a l'environnement des affaires et qu'on sort tout ça. Prenez l'exemple. Si on applique le régime fiscal de la RDC dans les projets du cuivre, nous allons prélever le taux de prélèvement moyen effectif qu'on va prendre, sera 68%, comparé, donc qui est tout à fait similaire avec ce que l'Australie occidentale prendrait. Je dis tout simplement ça. Et donc, voyez-vous que ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'un investisseur peut préférer aller en Australie qui est ici chez nous? On sait où on a beaucoup de problèmes, tout ça, et qu'on sort tout ça. Voyez-vous, aucun pays africain que nous avons comparé ici n'arrive jusqu'à ce point-là, à 68%. Je pense quand même qu'il faut être, il faut être équilibré. Il faut vraiment techniquement s'informer. Mais nous ne disons pas qu'il faut laisser les coups de midi, des mille dés. Parce que nous avons trouvé qu'il a ses failles. J'ai parlé de la question, on n'a pas parlé de ça, de la stabilisation du régime fiscal. Il faut absolument maintenant qu'on puisse mener la réforme. Parce qu'avec la stabilisation de 10 ans figée en date de la modification de la loi, donc toutes les réformes du code minier en ce qui concerne le régime douanier de change et le régime fiscal, les compagnies ont 10 ans, sauf si elles acceptent de négocier avec nous, mais ont 10 ans. Donc si nous modifions le code minier aujourd'hui ou en 2017 par exemple, les codes, les dispositions fiscales n'entreront en vigueur qu'en 2027.
Une autre étude rendue publique hier, c'est celle de Sarwa RDC sur la participation de la société civile dans la mise en œuvre de l'ITIE en RDC. Selon ce rapport, l'appui des organisations de la société civile a été de grand apport au processus ITIE, cela dans la dissémination des rapports, l'évaluation du processus et dans l'élaboration des rapports ITIE. Le professeur Mac Doumba est le coordonnateur national de l'ITIE RDC. Il salue cet apport de la société civile de la RDC en ces termes.
Les activités de la société civile dans la mise en œuvre sont capitales. Et je dois imaginer ça en disant que les entreprises, vous savez que l'ITIE est tripartite. Il y a le gouvernement, les entreprises et la société civile. Les deux premières parties sont des parties déclarantes. Et le gouvernement dirige la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre n'avancerait pas s'il n'y avait pas la société civile. Et la société civile, c'est le moteur du véhicule. Quand vous pouvez avoir du carburant, vous pouvez avoir la carrosserie, Mais quand il n'y a pas de moteur, ça ne peut pas avancer. Et donc, nous disons que ça nous apporte beaucoup plus. Et si aujourd'hui, le processus ITIE en République démocratique du Congo est mieux vu à l'extérieur, mieux coté, et nous avons de la considération parce que la société civile de la République démocratique du Congo mène des activités qui permettent à ce que le processus reste debout. La société civile est vigilante, la société civile conseille, la société civile attire l'attention des autres parties prenantes, la société civile corrige, la société civile est capable d'évaluer le processus. C'est ça, donc, en conclusion, l'apport est de première importance et très nécessaire. Mm-hmm. C'est ce que nous retenons.
Une illustration de quelques activités qui vous ont vraiment servi.
Oui, par exemple, vous savez que c'était très difficile à l'époque, il y a 4 ans, de connaître exactement les maillons du contrat sino-congolais de Sicomine. On ne pouvait pas savoir exactement qu'est-ce qui était venu, parce que c'est un contrat de type troc. Il y a des infrastructures qui sont réalisées avec le prêt que nous avons reçu. Et lorsque la Sicomine va commencer à produire, déjà elle a commencé, nous allons vendre et restituer l'argent qui a servi aux infrastructures et aussi aux projets mines. Et donc, pour que nous soyons au courant de cela, il a fallu que la société civile pèse de tout son poids, que la société civile fasse des arrêts de participation au processus ITIE, parce que nous étions prêts d'être suspendus. Et à cause de cela, le chef de l'État a autorisé, avec le Premier ministre, qu'on nous mette au courant exactement du contrat sinon. Ça, c'est capital pour nous. C'est capital aussi la lecture des rapports ITIE par la société civile et la critique qu'ils effectuent sur la qualité et sur le contenu des rapports. Et ça nous apporte que nos rapports sont les meilleurs aujourd'hui dans le monde.
Rendons-nous à présent dans le Haut-Katanga pour parler de ce mécontentement des agents de la Gécamines hier à Lubumbashi. Une cinquantaine au total, ces agents réunis au bureau de la direction générale de la Gécamines Lubumbashi réclamaient 10 mois d'arriérés de salaire. Selon eux, il est difficile pour eux maintenant de nouer les deux bouts du mois. Ainsi, ils ont exigé à leur employeur de leur payer d'abord 2 mois de salaire. On écoute Prosper Kachoba, délégué syndical de la Gécamines, au micro de Paulin Mounanga.
C'est un ras-le-bol. L'impaiement, les arriérés totalisent 10 mois. Alors, en dehors des arriérés, il y a les retards de paye. Donc, on nous paye après 1 mois et demi ou 2 mois, ce qui fait que la plupart des agents se retrouvent dehors. Leurs enfants n'étudient pas. Donc quand je dis dehors, ça veut dire que les gens qui sont locataires, ils n'arrivent pas à payer les loyers parce que le bailleur, il exige le paiement chaque mois. Vous n'avez pas à vous expliquer. Alors, il y a une tension vive. Nous avons appris ça la semaine passée. Il y avait déjà des menaces. Les gens étaient décidés de se retrouver aujourd'hui avant qu'ils ne se retrouvent. Nous avons été reçus par l'AD. AD nous a appelés à ce sujet. On a échangé. Après avoir échangé, nous sommes venus rendre compte. C'est ce qui justifie cette rencontre de ce matin.
Contacté par Radio Okapi, le directeur général de la Gécamines a annoncé que malgré les difficultés que traverse la société, la paye d'un mois de salaire sur les 10 a débuté depuis le week-end dernier et a rassuré qu'une autre paye va intervenir au mois de décembre. Du Haut-Katanga, rendons-nous dans le Lualaba. La direction générale de la SNCC a organisé la semaine dernière une journée dénommée clientèle minière à Kolwezi. Cette activité a réuni la chambre des mines de la FEC du Grand Katanga et les autorités de la province du Lualaba. Il était question de réfléchir sur la relance du trafic ferroviaire pour l'évacuation des minerais sur l'axe Lubumbashi-Kolwezi-Sakania-Dilolo jusqu'à la frontière avec l'Angola. Satisfait de cette initiative, les opérateurs économiques du secteur minier disent attendre voir la SNCC respecter ses engagements. Les détails dans ce dossier que nous propose Madeleine Waïla.
Ces assises se sont tenues au chef-lieu du Lualaba, la province qui a une activité minière importante par rapport aux 3 autres issues de démembrement du Grand Katanga. Dans sa communication, le directeur général de la SNCC a commencé par démontrer à l'assistance l'importance de cette journée qui met face à face la clientèle minière avec la SNCC pour échanger sur certaines questions d'intérêt commun, à savoir les attentes des opérateurs économiques minières et aussi la capacité réelle de la SNCC à satisfaire cette clientèle. Ainsi, Ilunga Ilunkamba, directeur général de la SNCC, a éclairé l'assistance sur la capacité d'extraction ainsi que le délai d'acheminement des produits qui sont favorables.
Le délai moyen d'acheminement pour le Sakania varie entre 36 heures et 40 heures, avec une charge remorquée de 800 tonnes, avec la possibilité de tracter jusqu'à 1200 tonnes si nécessaire. Tandis que la relation Lubumbashi-Sakania est régulièrement couverte en plus de 10 heures en moyenne.
En plus, le directeur général de la SNCC a ensuite informé l'assistance sur le système de flexibilité tarifaire que la société adopte pour accorder des réductions tarifaires aux usagers. C'est par exemple un wagon d'un train minier qui part de Kolwezi vers Sakania pour une distance d'environ 587 km payera 78,7 dollars la tonne. Et si la quantité remise à la SNCC atteint 500 tonnes le mois, le tarif final qui sera appliqué sur la marchandise sera de 46,7 dollars la tonne. De son côté, la chambre de mines du Grand Katanga voudrait que certains préalables soient satisfaits, notamment la rapidité de l'attraction des minerais par la voie ferroviaire et la sécurisation des marchandises qui sont transportées par la SNCC. Le Mumbashi Madeleine Oila, Radio Okapi.
Merci Madeleine, et c'est la fin de Écho d'économie de ce soir. Très bonne suite de programme sur votre radio. À demain.